Calade. La Méridienne.
Et c'est l'heure d'une rubrique Nuance du Monde. Et pour ça, on retrouve une fine équipe aujourd'hui.
C'est Geneviève. Yes, c'est nous.
Et Héloïse qui sont avec nous en studio. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Et merci de nous avoir rejoints pour une rubrique intitulée Histoire de femmes, femmes d'histoire.
Exact.
Alors, de qui est-ce qu'on va parler aujourd'hui? De quel personnage?
On va parler d'Alice Milia.
Inconnu au bataillon, comme souvent, mais...
Comme souvent, et pourtant.
Votre rôle, c'est de rendre honneur à des personnes qui ont été malheureusement oubliées.
Et ben, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'Alice Milia, aujourd'hui, elle fait un petit peu le buzz dans un milieu un peu plus sportif, hein, puisqu'elle fait l'objet de deux biographies qui sont sorties coup sur coup. Elle a donné son nom à une fondation, des stades. Voilà, ça vous met un petit peu sur la piste de la raison pour laquelle on va parler d'elle aujourd'hui, des émissions de radio, etc.
Je suis potentiellement inculte.
Exactement. Du coup, on s'est dit avec Héloïse qu'on allait apporter notre petite pierre à l'édifice, super, nous aussi, et sortir cette belle femme de l'ombre,
okay,
de l'anonymat dans lequel elle est tombée le plus absolument, au point d'ailleurs qu'elle n'a même pas son nom sur sa propre pierre tombale.
Ah oui.
Pour te dire, hein, qu'elle a été, mais alors vraiment, c'est une grande oubliée. Alors évidemment, on va répondre à la question tout de suite, mais Alice Milia, c'est qui? Alors la petite Alice Milia voit le jour à Nantes à la fin du 19e siècle. Si je reprends mes petites notes, elle est née en 1884.
Ok.
Voilà, milieu petite bourgeoisie, parents commerçants, tout ce qu'il faut, voilà. Donc, a priori, rien n'amène cette femme à sortir de son petit destin. Sauf qu'elle fait déjà un premier petit pas de côté, c'est-à-dire que c'est une femme qui a envie de découvrir un petit peu le monde. Donc, elle va partir enseigner. En fait, elle va être préceptrice. Tu vois ce que ça veut dire, préceptrice, Louise?
Oui, à peu près.
Ouais, tu donnerais quelle définition?
Bah, c'est un petit peu comme un enseignant privé.
Ouais, c'est ça. Et c'est la classe, ça, quand même. Ah, t'imagines, ouais, toi, t'aurais une enseignante privée qui viendrait à la maison. Mmh. Ça le fait. Ça le fait. Et
ça
donc,
permet de ne pas se lever du canapé.
Eh ouais. Mais complètement. Alors, sauf qu'en fait, Alice Milia, elle te dirait, bah si, quand même, faut se lever du canapé. Et puis même si t'es une fille, et qu'à l'époque, tout le monde est persuadé que faire du sport, eh ben, ça déforme le corps féminin, ça le rend moins gracieux. Puis on sait jamais, peut-être elle pourrait avoir... Plus d'enfants?
Bah, impossible. Non, ce serait
c'est horrible. Ah, excusez-moi, là, au bout de vos radios. N'écoutez pas ça, c'est absolument atroce. Donc, elle va inciter ses enfants à faire du sport parce que tout simplement, eh bien, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni à l'époque, eh bien, les femmes s'activent pour avoir des droits civiques et puis elles s'activent aussi dans un mouvement plus large d'hygiénisme. Elles s'entretiennent et elles font du sport et par plaisir et pas que des sports typés, si je puis dire, féminins, c'est-à-dire qu'elles font de l'aviron, elles font du football, elles font du rugby, etc., etc.
Alors qu'elles étaient censées faire du croquet, de l'équitation, de la danse, de la gym.
Ouais, exactement, Héloïse. Du côté français, voilà les seuls sports auxquels les femmes ont le droit de participer.
D'accord.
Parce que ça, c'est respectueux de leur féminité.
Ça risque pas de les déformer.
Non.
Donc, ceci dit, l'équitation, c'est très sportif, hein.
Mais tous ces sports permettent de se dépenser, de se faire plaisir, d'être bien dans sa tête.
Se dépenser pour le croquet, je ne suis pas sûre, mais...
Écoute, ça fait...
On en reparlera.
On fera peut-être une petite émission sur l'importance du croquet. Bref, tout ça pour dire qu'elle devient institutrice donc, dans une famille. Voilà, elle se marie avec un autre Nantais. Voilà. Et assez rapidement, en fait, eh bien, malheureusement, elle est touchée par deux drames consécutifs. Elle perd sa mère et elle perd son mari. Ce qui fait que du coup, à l'âge de 24 ans, elle se retrouve veuve.
D'accord.
Elle revient en France et là, elle découvre qu'en France, eh bien, effectivement, à part de la gym et du croquet, on ne lui propose pas grand-chose d'autre. Et elle, ça ne lui plaît pas du tout. Elle décide de s'investir. Elle va participer à des grandes épreuves, notamment des épreuves qui jusque-là sont exclusivement réservées à des hommes, notamment en aviron. Elle va gagner une grande course en 1906, une course d'aviron où il faut parcourir 80 km sur la Seine. Qu'elle gagne.
En moins de 12 heures.
Ouais, en moins de 12 heures, tu as tout à fait raison. Et elle gagne devant des hommes. Donc ça va être son premier coup d'éclat. Et elle va profiter de cette notoriété pour organiser autour d'elle différentes fédérations de sport féminin.
Alors que moi, déjà, pour donner un coup de rame, je galère.
C'est qu'elle était bien entraînée alors.
C'est ça. Ouais, écoute, il te reste à peu près une petite quinzaine d'années pour être au point. Du coup, elle organise tout ça. Voilà. On va faire un petit saut de puce dans l'histoire. On arrive quasiment à la veille de la Première Guerre mondiale. Le sport féminin en France reste... se développe, même s'il n'a aucune reconnaissance en termes de compétition. La Première Guerre mondiale arrive, et là, très clairement, il y a un coup d'arrêt sur toutes les manifestations sportives d'envergure, puisque ben, tout simplement, le cœur n'est plus à la fête, mais à l'effort de guerre. Et donc, les Jeux Olympiques, pour lesquels elle avait l'ambition de faire participer des femmes, vont être annulés en 1916 et réorganisés à Anvers après cette Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, les femmes, elles ont eu un travail enfin reconnu dans les usines, dans les champs, en remplacement de leurs maris, leurs frères, leurs pères.
Parce qu'on s'est rendu compte que quand les hommes y partaient à la guerre, elles savaient faire quelque chose.
Eh bien, exactement, Héloïse. On s'en rend compte. Mais pour autant, on part du principe quand même en 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, que bon, c'est bien, elles ont fait des efforts, elles ont contribué à la victoire finale. Mais quand même, c'est pas très féminin tout ça.
Hein. Bah non.
C'est pas très gracieux. Donc, à partir de là, eh bien, il va y avoir un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, le ministre de la guerre de l'époque, donc Clémenceau, va dire ben, c'est bien que les femmes fassent du sport. On reconnaît ça officiellement.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Mais attention, ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, faire du sport, c'est préparer la guerre. Puisque le sport, à l'époque, n'est pas un ministère à part entière. Il dépend du ministère de la guerre. Ah. Donc, sous-entendu quand même, faire du sport, ça doit rester viril.
D'accord, ouais.
Et donc, quand Alice Mia arrive, elle rencontre Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin...
L'important, c'est de participer.
Ouais, alors tu sais que c'est pas de lui en plus. Hein. C'est vraiment un imposteur sur toute la ligne, ce Pierre de Coubertin.
Voleur.
Et donc, elle le rencontre, elle essaye de le convaincre de l'importance de sa fédération, etc. Et alors là, elle y essuie un mépris le plus absolu. Tout le monde lui rit au nez.
Voilà. Et il voulait pas la laisser participer.
Il voulait pas la laisser participer, elle et accessoirement la centaine d'athlètes qui étaient prêtes à participer. Qu'en cela ne tienne, en 1922, elle dit ben, puisque je ne peux pas participer, puisque personne, aucune femme ne peut participer aux Jeux Olympiques, eh bien, je crée mes Jeux Olympiques. Et donc, elle les organise à Paris.
Okay.
Et c'est pas anecdotique, hein. Il y a des milliers de personnes qui vont se déplacer pour assister à cette compétition. Il y a 6 pays au total qui vont répondre présents, des centaines d'athlètes. Et c'est le paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, elle a quand même le sens de la com, c'est-à-dire qu'elle sait faire parler d'elle, mais d'un autre, elle essuie un tel machisme dans son milieu qu'elle n'arrive pas à percer. Donc, elle continue de se battre, parce que vous l'aurez compris, hein,
Alice Mia. Les premiers Jeux Olympiques féminins
Alors, les premiers Jeux Olympiques féminins, c'est 1922. Ouais. Alors, on lui retire le droit d'appeler ça Jeux Olympiques.
Oui, et ils veulent qu'on l'appelle Jeux Mondial.
Voilà, Jeux Mondiaux.
Ah ouais, d'accord. Super.
C'est Mondial du sport féminin.
Ok.
Ouais, tout est important, hein. Les mots
c'est
sont importants.
Le comité olympique qui n'a pas accepté de donner le...
Non, il faut attendre l'après-Deuxième Guerre mondiale. Il faut attendre 1960 pour que les femmes puissent participer de manière officielle. Au début, c'est 12, et puis de plus en plus. Et d'ailleurs, bien quelque part, Alice Mia, elle serait fière d'apprendre qu'aujourd'hui, en 2024, eh bien, c'est la première fois qu'il y a une parité entre hommes-femmes aux Jeux Olympiques de Paris.
Je me permets de...
Permets-toi.
...préciser que la première fois qu'il y a eu une mixité hommes-femmes, il y avait 933 sportifs qui étaient des hommes, et seulement 27 qui étaient des femmes, c'est ça ?
Ouais. Alors, du coup, on peut parler de parité ou pas, tu crois ?
Non.
Bah, pas vraiment, ouais, hein, ouais. Tu vois. Et pourtant, ça veut pas dire que les femmes sont moins méritantes.
Non.
Voilà, ça veut juste dire qu'on ne parle pas d'elles. Donc, du coup, j'en arrive où dans toute ma petite histoire, là ?
En 1922, c'était les premiers Jeux Olympiques qui n'ont pas eu le droit de s'appeler Jeux Olympiques.
Voilà.
Et elle a continué à la persévérer.
Ah, t'es au top, Mathieu, t'as tout suivi, c'est bien, ça me fait plaisir.
Pour essayer de continuer de créer ce genre d'événements sportifs, c'est ça ?
Exactement. Et... petit à petit, en fait, elle va lâcher l'affaire. C'est-à-dire que pour les Jeux Olympiques de 1926, donc cette fois-ci qui sont organisés à Amsterdam, hop, à nouveau, refus. Donc il y a quand même une prise de parti qui commence à s'ébrécher un petit peu. Dans le milieu sportif, on commence à admettre l'idée qu'au moins pour la gymnastique, pas l'athlétisme, hein, parce qu'il y a une femme qui va participer du coup aux Jeux Olympiques sur l'épreuve d'athlétisme. La pauvre, elle va s'en prendre plein la tête. On va l'humilier publiquement. Donc il faut attendre vraiment la Deuxième Guerre mondiale. Et Alice Mia, elle va jeter l'éponge en fait. À partir du moment où aux Jeux Olympiques qui sont organisés à Amsterdam, donc en 26, il n'y aura pas de prise en compte des femmes. Elle commence à se désespérer un petit peu. Les problèmes de santé prennent le dessus. Donc elle va démissionner de sa propre fédération. Et elle va retomber dans l'oubli le plus absolu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle meurt en 1957, donc complètement oubliée par tout le monde.
Et il n'y a même pas son nom sur sa tombe.
Et voilà.
Comment ça se fait, ça? Mystère et boule de gomme.
Mystère et boule de gomme.
Alors que pourtant, il y a plein de sportives qui étaient très compétentes, mais qui ne sont pas très connues, comme avoir une autre chronique sur Yabou Enali.
Il y a du teasing pour une prochaine chronique, c'est ça? Ou une chronique qui est à retrouver sur...
Qui est à retrouver sur le blog, okay, complètement, sur le site de la radio, de Calanma Radio.
Très bien, merci beaucoup de nous avoir raconté cette histoire qui finit un peu de façon tragique quand même. Mais
Ouais, mais non, parce qu'aujourd'hui en 2024, on parle d'Alice Mia. Aujourd'hui en 2024, on a une parité homme-femme. Mais ceci dit, je pense que si elle était encore parmi nous, elle ne s'arrêterait peut-être pas juste à cette notion de parité. Peut-être qu'elle aurait épousé d'autres combats, parce que les Jeux Olympiques aujourd'hui ne sont pas encore les Jeux Olympiques de tout le monde.
Et puis aussi, il a fallu attendre 2012 pour que les femmes aient le droit de faire de la boxe.
Très bien. On apprend, ouais, le progrès met du temps. C'est terrible à entendre.
Oui. Merci. On peut lui donner un petit coup de pouce quand même.
Ouais, bah oui, évidemment. Merci beaucoup pour cette rubrique.
Merci à vous.
À tout bientôt. Calade. La Méridienne.